Besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que tu as besoin de savoir avant de sortir.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Veuillez prendre note que l'émission qui suit a été enregistrée à une date antérieure à aujourd'hui. Il se peut que certaines informations ne soient plus à jour. Merci d'avoir choisi Chiz 94.3.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Emmanuel Bernier au micro. On sait que l'historien aime beaucoup découper l'histoire en tranches, comme pour reprendre l'expression du médiéviste Jacques Le Goff. On sait évidemment que toutes ces différentes balises qui sont placées sur le parcours du passé par les historiens permettent de mieux comprendre. Hein. On pense à des périodes comme le Moyen-Âge, la Renaissance et au Québec, une période très importante, très significative de notre histoire dont à laquelle on fait référence encore assez souvent, c'est la Révolution tranquille. Et pour parler de cette période, et de cette question aussi de la périodisation, hein, on va avoir l'occasion d'en parler. J'ai avec moi Martin Paquette, professeur à l'Université Laval. Bonjour Martin.
Bonjour Emmanuel.
Martin Paquette qui, donc comme je disais, professeur titulaire à l'Université Laval. Également, il est titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. Et il vient de faire paraître chez Boréal, avec son collègue Stéphane Savard, une brève histoire de la Révolution tranquille, dans cette collection là, des brèves histoires des femmes de l'Église catholique, etc. Donc, un ouvrage qui vient tout juste de sortir. D'où vous est venue l'idée de cet ouvrage?
Ah, bien, c'est une vieille idée, effectivement. Bon, étant professeur, c'est souvent les relations que nous avons avec nos étudiants qui nous donnent des idées. Et moi, c'est une idée qui... dès les premiers cours que j'ai enseignés à l'université, il y avait des lacunes concernant les synthèses historiques sur la Révolution tranquille. Donc, c'est évidemment dans l'ensemble des projets que nous avons, il y a très souvent ce genre de projet de répondre à des lacunes et d'offrir justement aux étudiants et aux étudiantes un matériel qui soit utile pour les cours sur la Révolution tranquille. Mais plus précisément aussi, c'est un contrat. C'est un contrat, c'est notre éditrice aux éditions du Boréal, Sophie Imbeau. Sophie Imbeau, qui m'a approché à l'origine en disant, bon, il est important d'avoir une brève histoire de la Révolution tranquille parce qu'il y a un manque actuellement de connaissances synthétiques sur l'ensemble de la Révolution tranquille. Il y a beaucoup de livres, c'est vrai, mais beaucoup de livres en sociologie, beaucoup de livres en sciences politiques, quelques livres en histoire, mais aucun livre fait vraiment l'histoire de la Révolution tranquille. Donc, elle m'a approché, j'ai approché à ce moment-là Stéphane Savard, mon collègue à l'UQAM, pour pouvoir travailler. Stéphane, ça fait plusieurs années d'ailleurs, qui avait le même problème que moi dans le cadre de ses cours. Ses étudiants ont besoin de connaissances sur la Révolution tranquille et cette connaissance-là, elle est fragmentée. Un outil comme un livre, une synthèse, est donc important. Donc, Stéphane et moi, nous sommes attelés à la tâche et le résultat, c'est le livre qui est sorti.
Et bon, évidemment, il y a la question de la périodisation, hein, une période comme ça. Donc, bon, le début de la Révolution tranquille fait à peu près consensus. Hein, on va dire, bon, la mort de Duplessis, l'élection de Jean Lesage, bon, mais la fin, bon, certains vont la placer en 68, d'autres beaucoup plus tard, là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bien, tu citais tout à l'heure Jacques Le Goff, qui est un bon exemple, justement. Le rôle des historiens, c'est de travailler avec le temps. Et pour travailler avec le temps, c'est d'offrir une compréhension, une signification au temps. Donc, c'est pour ça qu'on découpe le temps en tranches. On parlait du Moyen Âge, par exemple, de la période contemporaine. Donc, ça a un sens en tant que tel. Et pour réunir des éléments qui sont disparates, dans une compréhension qui est d'ensemble. Puis surtout, c'est ça, c'est particulièrement important dans le cadre d'une synthèse. Donc, c'est d'offrir une compréhension qui est d'ensemble d'éléments qui sont disparates. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pensé justement à la Révolution tranquille. Quel est le sens qui unit tous ces événements qui se sont produits pendant une vingtaine d'années au Québec? Eh bien, il y a plusieurs éléments. Certains vont dire, ben, c'est la sécularisation de la société. D'autres vont dire, par exemple, c'est les dimensions économiques. Et nous sommes, Stéphane et moi, des spécialistes en histoire politique. Donc, pour nous, ce qui est paru très évident, c'est la représentation qu'on donne à l'État provincial, à l'État québécois. C'est-à-dire, on considère l'État québécois comme étant le moteur du développement. C'est va donc assurer à l'ensemble de la société québécoise, OK, des éléments pour pouvoir se développer du point de vue social, culturel, économique, politique, des éléments pour pouvoir émanciper les Québécois en tant que tel. Et ça, cette représentation-là était dominante, a été hégémonique. Elle était hégémonique à partir de la mort de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis correspond à une certaine façon de concevoir le rôle de l'État. C'est un État canadien-français, un État qui est très soucieux également de sa place au sein de la Confédération canadienne, qui tient à tenir son rang en tant que tel. Mais ce n'est pas à l'État, pour Maurice Duplessis, d'assurer le développement économique. À la mort de Maurice Duplessis, par contre, c'est devenu particulièrement évident à l'intérieur de l'ensemble de la société québécoise que l'État devait jouer ce rôle-là. L'État-providence devait jouer ce rôle-là. Donc, Duplessis, on s'entend, c'est vraiment un moment marquant, justement. C'est la balise de départ. Quand est-ce que cette conception-là a disparu? Et ça, c'est des historiens ne s'entendent pas là-dessus nécessairement. Nous, nous proposons que c'est avec l'avènement du néolibéralisme que ça se manifeste. Le néolibéralisme, on considère que l'État est trop important dans nos vies. Il faut donc déréglementer, il faut réduire les dépenses publiques, il faut donc offrir aux initiatives personnelles, toutes les modalités pour pouvoir se développer. Donc, on est très méfiant vis-à-vis du rôle de l'État. Et ça, c'est apparu au début des années 1980, entre autres, et particulièrement au moment de la négociation collective de l'État avec ses employés et avec la loi 111. La loi 111 a obligé le retour au travail à la suite d'une grève illégale des enseignants dans le secteur public. Et ces mesures-là ont été particulièrement sévères. 20 % de salaire de moins, des pénalités aux syndicats, des pénalités aux syndiqués également. Et à partir de ce moment-là, il y a, je dirais ici, une désillusion qui est présente par rapport au rôle de l'État québécois comme moteur de développement. Et ça, c'est l'obsession aussi de la dette budgétaire qui est très présente à partir du début des années 80. Et là, on se met à parler désormais d'État provigo, un État qui favorise l'entreprise privée, mais qui n'a pas nécessairement la même dimension que l'État-providence. Donc, le 17 février 1983, le moment où on établit la loi 111, nous semble vraiment un moment de rupture qui est présent.
Évidemment, bon, tous les phénomènes dont vous venez de parler, bon, il y en a qui sont vraiment spécifiques au Québec. Là, on pense évidemment au duplessisme, entre autres. Mais ce sont aussi des dynamiques là, qui s'inscrivent dans l'histoire occidentale en général, notamment sur le plan économique, par rapport aux Trente Glorieuses. Là, quel est l'impact de cette période de prospérité qui suit la Seconde Guerre mondiale sur l'histoire du Québec?
En fait, le Québec n'est pas un isolat, comme on dit en science. C'est-à-dire, ce n'est pas l'endroit où il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Continuellement dans l'histoire québécoise s'insère, participe des mouvements mondiaux. Et ça, c'est un élément qui est important. On le voit au moment de la conquête de l'Amérique. On le voit avec le développement des révolutions à travers le monde, au 19e siècle, la révolution industrielle, entre autres. On le voit avec l'intégration du Québec à l'économie nord-américaine en tant que telle. Donc, le Québec participe des mouvements qui sont dans le monde. Et les mouvements qui sont dans le monde à partir, justement, de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette période que l'économie de Jean Forestier appelle les 30 glorieuses, les 30 années de développement économique pratiquement ininterrompu, variable selon les endroits, effectivement, que l'Occident va connaître. Et ça va se manifester à la suite, justement, de l'arrivée, justement, de l'État-providence et des mesures que cet État-providence va faire un peu partout à travers le monde, c'est-à-dire des mesures de John Maynard Keynes, des mesures qui visent à assurer un pouvoir d'achat, éviter de tomber dans une dépression économique comme celle des années 1930 par le rôle, justement, de l'État dans l'économie. Et on le voit un peu partout à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et, évidemment, au Canada et particulièrement au Québec. OK, le rôle, justement, de cet État pour assurer, entre autres, l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, c'est un moyen particulièrement important pour pouvoir, justement, s'émanciper, se développer, assurer un développement. L'accès à la santé. L'accès à la santé, évidemment, il y a tout le phénomène mondial, évidemment, qu'on voit à ce moment-là, le développement des sciences médicales. La médecine se développe de manière particulièrement importante à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et cette médecine-là, évidemment, a un impact pour l'ensemble de la condition de santé des Québécois et des Québécoises, comme des autres Occidentaux de manière générale. On va le voir également avec d'autres phénomènes, évidemment. Mais le Québec participe de ces mouvements-là. Il n'est pas dans un monde à part. On le voit en Espagne, on le voit au Mexique, on le voit au Portugal, on le voit en France, encore une fois. Ce sont ces phénomènes-là dans lesquels, justement, le Québec participe. Et par contre, il participe avec sa signature particulière. Et sa signature, c'est celle qu'on appelle la Révolution tranquille.
Donc, il est influencé par ce mouvement donc d'État-providence, mais également, il s'inscrit dans un processus de sécularisation qui est très large aussi. Bon, on parle souvent du Québec qui abandonne là, rapidement l'Église catholique, mais c'est pas quelque chose qui se passe uniquement au Québec.
Bon, effectivement, quand on parle de sécularisation, on a une image en tête. Quelque part, en septembre 1966... OK, les églises se sont vidées. Ça, c'est une image qui frappe beaucoup, mais c'est un processus qui est beaucoup plus lent que ça. Le terme sécularisation l'indique bien, c'est le siècle, entrer dans le siècle en tant que tel. C'est cette conviction que les affaires religieuses ne doivent pas intervenir de manière importante dans la détermination des activités politiques, dans l'espace public. Et ça se fait avec différents régimes, à différentes vitesses, à différentes échelles en tant que telles, l'échelle de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que la sécularisation, dès le début du 20e siècle, elle est présente à travers le monde, mais elle est aussi présente au Québec. Elle se manifeste dans une société qui était, pour reprendre l'expression phalange du monde, autrefois religieuse. C'est-à-dire où le lien social était modelé par l'appartenance, entre autres, à l'Église catholique. Et pour les différentes dénominations protestantes, à telle église protestante, ou ainsi de suite. Donc, à partir du début du 20e siècle, il commence à y avoir des fissures qui apparaissent. Des fissures qui se remarquent, entre autres, par l'aide financière qu'on donne à l'Église. Donc, on constate que dès les années 1920-1930, la plupart des diocèses au Québec, diocèses catholiques, ont beaucoup moins d'argent pour faire leur mission, parce que, justement, les fidèles en donnent moins. Donc, c'est déjà là un élément qui joue ici. À partir des années 1940, ce qu'on voit, c'est un déclin des effectifs. Donc, on a beaucoup moins de religieuses et de religieux qui essaient de devenir prêtres ou encore de devenir sœurs, de devenir membres d'une communauté religieuse. Et à partir des années 1960, ce qu'on voit, c'est que l'Église n'est plus capable d'assurer ses missions en termes de santé et d'éducation. Parce que c'est des missions qui sont terriblement onéreuse. L'augmentation, par exemple, des frais médicaux grâce à la technologie est fabuleuse. À ce moment-là, dans les années 40, 50 et 60, les enfants sont de plus en plus nombreux à vouloir fréquenter les écoles. Donc, il y a une crise effective. On n'est plus capable d'accueillir cela. Donc, l'Église se désengage. Elle tente de s'adapter au monde. Et ce qu'on va avoir, entre autres, avec le Concile Vatican II, on adopte, par exemple, la messe en langage vernaculaire. Donc, c'est-à-dire, on laisse faire le latin, puis on parle désormais le français à l'Église, d'une part. On essaie d'adapter la mission d'encadrement aux besoins qu'on a, tant que tel, mais progressivement, les fidèles, c'est un désamour qui se produit. C'est un désamour qui se fait pas de manière brusque, mais qui se fait de manière avec un peu de temps en tant que tel. Et dès la fin de la Révolution tranquille, même s'il y a encore beaucoup de catholiques qui fréquentent, qui pratiquent, qui vont par exemple se marier ou vont avoir baptisé leurs enfants à l'Église, le désamour est très présent. Et dans les années 80, c'est particulièrement massif. Les gens quittent les Églises à ce moment-là. Mm.
Et avec la sécularisation, l'État-providence, un autre phénomène aussi qui est très fort au Québec à l'époque, le nationalisme, qui est également un phénomène transnational.
Ah oui, bien sûr. Tous ces phénomènes qu'on va voir avec, par exemple, le mouvement nationaliste au Québec, ça correspond justement à la fois à des tendances internationales, mais aussi à des tendances internes. Les deux sont vont de pair à ce moment-là. Donc, ce qu'on observe, par exemple, du point de vue international, c'est toute la montée, par exemple, de ce qu'on appelle les petites nations. Donc, on va voir ça, par exemple, en Europe, le mouvement breton, on va voir les Catalans, on va voir les Écossais, ainsi de suite. On va voir aussi le mouvement de la décolonisation à travers le monde, qui est particulièrement important, l'émergence de toutes ces nouvelles nations qui sont présentes en Afrique, par exemple. Ça commence en Asie, ça va en Afrique. On va voir aussi des mouvements de libération nationale qui vont être présents avec la contestation qui se fait, par exemple, en Amérique latine. Le rôle de Cuba, par exemple, est particulièrement important. Donc, ces mouvements-là sont particulièrement importants et ils se manifestent, entre autres, par la volonté d'avoir un État. Parce que la décolonisation en Afrique, c'est l'apparition des États en Afrique en tant que tel. Donc, avoir un État, d'avoir un instrument collectif par lequel les individus vont être capables d'être reconnus à travers le monde, d'une part, comme étant appartenant à la nation, par exemple, à la nation congolaise, à la nation ivoirienne, et ainsi de suite. Mais aussi, qui vont être capables aussi d'offrir des services à leurs citoyens, des services d'éducation, de santé, de protection, et ainsi de suite. Donc, ça transite par le rôle de l'État et c'est ça qu'on voit au Québec apparaître en tant que tel. C'est que la conception du nationalisme qui était présente avant la Révolution tranquille, elle est fondée sur l'ethnie, mais elle ne se repose pas sur l'État. Même l'État, on s'en méfie, parce qu'on voit, par exemple, l'État ontarien, au moment du règlement 17, il coupe les droits aux Canadiens français. On se méfie évidemment de l'État fédéral, parce que l'État fédéral, à ce moment-là, on n'a pas le contrôle de l'État fédéral. On est une minorité à ce moment-là. Le seul État sur lequel on a un contrôle, c'est l'État québécois. Et c'est pour ça que le mouvement indépendantiste va jouer un rôle important dans la redéfinition du nationalisme au Québec. Et ce mouvement indépendantiste est accordé à l'État toute la plénitude de ses moyens, sa souveraineté, comme on disait à l'époque, la plénitude de ses moyens, puis d'être reconnu ailleurs. Et c'est ce mouvement-là qui va assurer, entre autres, en partie, justement, la reconnaissance de l'État à travers le monde. C'est aussi vrai, puis ça c'est intéressant, du côté fédéraliste, parce que les fédéralistes de l'époque sont convaincus que l'État québécois a un rôle à assurer pour la protection de la nation. Mais par contre, ce rôle à jouer passe par un statut particulier. Et donc, plusieurs fédéralistes québécois vont militer justement pour la reconnaissance d'un statut particulier. On va le voir avec, par exemple, la charte de Victoria en 1971. On va le voir avec tous les débats constitutionnels qui vont se faire dans les années 70. On va le voir avec tout le débat qui se fait au moment du référendum de 80, entre autres. Et ça va se prolonger, entre autres, avec l'accord du Lac-Meech par la suite. Donc, vous voyez, ici, ce qui est particulièrement important, ce mouvement nationaliste passe par l'État. Et un État par lequel on a contrôle. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement important ici pour comprendre le mouvement néo-nationaliste qui est présent au Québec au moment de la Révolution tranquille.
Et puis, parallèlement à ça, on assiste aussi à ce que vous qualifiez de changement des élites définitrices à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que ça mange en général?
Le changement des élites. Ce qu'on appelle les élites définitrices, c'est une expression que Fernand Dumont mentionne. C'est-à-dire, dans une société donnée, vous avez évidemment une répartition des individus à l'intérieur d'une hiérarchie sociale. Il y a celle des élites, évidemment, c'est celle qui se situe en haut, qui se manifeste par le pouvoir de décision. La capacité de décider pour l'ensemble, d'une part. Ça se manifeste aussi par la capacité de se présenter comme étant les promoteurs et les gens qui représentent la communauté. Et ça, c'est des éléments qui sont particulièrement importants. Donc, cette capacité de promoteur, de représenter l'ensemble de la communauté, ça passe par le fait de définir, et c'est pour ça qu'on parle des listes définitrices, de définir quels sont les cadres de la communauté. Donc, ce qu'on voit à partir des années du 19e siècle, à partir de l'ère des révolutions, et si on vous donne une date qui est particulièrement importante, je dirais c'est 1840. 1840, c'est l'union des deux Canada. Donc, le régime canadien tel qu'il se constitue autour de la notion de la dualité canadienne, eh bien, ça se passe sur une division aussi, non seulement entre deux groupes ethniques ou deux peuples fondateurs, comme on disait à l'époque, mais à l'intérieur même de ces groupes fondateurs, et ça se passe par une division sociale qui est importante, où vous avez des gens qui considèrent qu'ils ont le droit de donner les destinées de la communauté, qui ont le contrôle de décider justement, ce que la communauté va aller en tant que telle, de part et d'autre. Et ces idées définitrices, elles sont présentes à la fois dans ce qu'on appelle le Canada anglais de l'époque, mais aussi dans le cadre du Canada français. Et c'est pour ça que le régime fédéral est mis en place. Le régime fédéral, c'est un lieu qui, et un régime parlementaire également aussi, c'est un lieu dans lequel les élites vont discuter entre elles. Ce n'est pas l'ensemble de la population qui discute. L'ensemble de la population pas vraiment voix au chapitre ici, en tant que telle. Donc, ces élites définitrices vont être très présentes dans l'histoire canadienne, dans l'histoire du Canada français, jusqu'aux années 1960. Or, les débats, les nouveaux défis, les enjeux qui se posent devant la société québécoise à l'époque demandent désormais une intervention beaucoup plus grande du rôle de l'État. Et ça va jouer entre autres pour effriter le régime fondé par ces élites définitrices. Et ces élites définitrices, parce que de plus en plus, vous avez des citoyens qui décident, ben écoutez, moi j'ai le droit à avoir droit au chapitre, j'ai accès à l'éducation, j'ai accès à un savoir, ma parole est légitime, je viens d'une région, j'ai le droit de parler, après tout, ça peut être décidé. Quand je viens de la Gaspésie, par exemple, bien, la Gaspésie, très souvent, avant, sous le régime des élites définitrices, bien, ça se décide à Québec, ça se décide à Montréal, ça se décide à Ottawa. Bon, les Gaspésiens vont dire, bien, écoutez, moi, je considère que j'ai le droit de décider pourquoi ma communauté devrait se développer, en quoi ma communauté devrait se développer. Ça se manifeste aussi avec la présence des femmes qui constituent quand même la moitié de la population, puis à un moment donné, ben, elles considèrent que c'est important d'avoir voix au chapitre. Ça se considère également aussi sur l'ensemble des groupes, les jeunes par exemple, les jeunes qui sont particulièrement importants au moment de la Révolution tranquille, c'est l'époque du baby-boom, bien les autres considèrent qu'il est donc important d'avoir accès à la parole publique. Et cet élément-là joue pour beaucoup, justement, pour l'effritement des élites traditionnelles, des élites définitrices traditionnelles. Et la transformation d'un Québec, ça se remarque ailleurs également, mais la transformation d'un Québec qui est beaucoup plus fondée sur les droits de la personne, les droits individuels ou certains droits collectifs en tant que tels, mais pas sur les divisions sociales qui existaient auparavant.
Mais est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que les élites définitrices d'avant les années 60 étaient plus des clercs et après des laïcs?
C'est pas seulement que des clercs. En premier, ce sont des laïcs. Parce que quand on parle des élites définitrices, on parle des médecins, des avocats, qui sont, dans, par exemple, les députés ou les membres du gouvernement là-dessus. Les laïcs ont donc un rôle prééminent à l'époque. Les clercs, c'est au sein de, là, du gouvernement qu'on appelle l'Église. Et donc, ça a aussi un rôle prééminent. Or, l'Église a moins en moins de présence, mais la contestation de ces élites laïques, elle est présente également ailleurs.
Mais l'Église avait quand même, disons... donc, même les laïcs, avant les années 60, pouvaient quand même pas trop contester la, disons, l'idéologie religieuse.
Dans le cas de l'Église, il faut oublier que l'Église, c'est une forme de gouvernement qui date du Moyen Âge. C'est en opposition à celle de l'État. Et donc, cette forme de gouvernement qui était présente en forme de, depuis le Moyen Âge connaît justement, comme on mentionnait tantôt, avec la sécularisation, un discrédit, un désamour qui est présent. Donc, il y a moins de gens qui se reconnaissent là-dedans. Donc, déjà là, la parole d'autorité des clercs est beaucoup moins présente, elle est beaucoup moins active, elle a beaucoup moins d'impact sur la définition de la société. C'était une société, pour conclure là-dessus, avec le mot de Fernand Dumont, une société autrefois religieuse, autrefois est importante.
Mais malgré ce, bon, vous parliez d'un élargissement, si on veut, des élites, bon, qui, bon, les femmes, les jeunes, etc., des gens des régions, mais il y a quand même ces mandarins de l'État, on pense à ces Bernard Landry, Jacques Parizeau, etc., qui ont quand même un rôle très important là, dans ce renouveau de la Révolution tranquille.
Ah, bien sûr, parce qu'il y a deux mouvements qui sont présents ici, par moment, la Révolution tranquille. Il y a un mouvement du haut vers le bas, dans lequel, justement, vous avez, bon, ces nouveaux clercs qui sont là, ces nouveaux pères, pour reprendre l'expression de Jean-Jacques Simard, okay, qui ont occupé l'appareil gouvernemental, qui décident et qui veulent agir dans certains domaines. Et ensuite, vous avez une pression qui vient du bas vers le haut, qui vient de l'ensemble des citoyens qui considèrent que certains enjeux sont particulièrement importants et que, justement, l'État doit intervenir. Ce double jeu du haut vers le bas et du bas vers le haut va manifester tout au long de la Révolution tranquille.
On va aller en pause. Donc, on est dans, pas mal dans les années 60. Là. Alors, une chanson bien connue qui décrit bien ce climat d'espoir, de renouveau. Un nouveau jour va se lever par Jacques Michel, une chanson de 1970. Et on se retrouve après la pause publicitaire.
Se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Bien, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César, car les enfants défilé grand, quand vient le temps, le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir est passé, c'est assez, le temps des sacrifices, se vend à bénéfice, le temps de prendre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Vient, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César, car les enfants défilent grands quand vient le temps. Se taire et pas se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille. Comme un enfant devenu grand, avec le temps bien, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de ses âmes. Car les enfants défilent les grands.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Chiz pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Rebienvenue à cette émission de 3600 secondes d'histoire avec l'historien Martin Paquette pour discuter de son nouvel ouvrage « Brève histoire de la Révolution tranquille », coécrit avec Stéphane Savard. Donc, on a un peu, dans la première partie de l'émission, mis la table là, à savoir quelles sont les balises de la Révolution tranquille, quels sont les grands changements dans l'imaginaire national notamment, mais également par rapport à l'État, hein, qui est une institution bon, qui est évidemment très, très ancienne, mais qui prend une place qui est très importante à cette époque-là, et notamment par rapport à la distribution des valeurs, c'est-à-dire la mise en valeur des ressources matérielles par le biais de la planification économique, puis aussi de la redistribution là, des ressources entre les citoyens. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus?
En effet, parce qu'on n'est pas oublié qu'un élément qui est particulièrement important au moment de la Révolution tranquille, alors, on parlait tantôt des élites définitrices, c'est le rôle des experts puis le rôle des décideurs politiques au début de la Révolution tranquille. Et au début de la Révolution tranquille, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des boomers qui décident. Ce sont des gens qui ont connu les années 30 dans leur jeunesse. Les années 30, c'est les années de la Grande Dépression. Des années dans lesquelles il y a une misère extrême, un taux de chômage hallucinant et une pauvreté qui est endémique. Une prolétarisation qui est particulièrement grande parmi les Canadiens français et les Canadiens anglais et l'ensemble des citoyens de l'époque en tant que tels. Donc, évidemment, la période de la guerre a permis de relancer l'industrie, relancer la production économique, et la solution apparaît pour eux autres avec le rôle de l'État. Et le rôle de l'État qui est particulièrement important là-dedans. Sauf qu'on est au Québec. Au Québec, la structure économique est assez particulière parce que l'économie qui s'est développée à partir du début du 20e siècle, à partir du 19e siècle, en Amérique du Nord, se fonde une source d'énergie, c'est le charbon. Et à partir de la fin du 19e siècle, c'est l'hydroélectricité qui est importante là-dedans. Donc, si vous voulez développer une industrie, si vous voulez assurer le développement économique, il faut donc s'assurer d'avoir une source d'énergie qui soit particulièrement importante. Comme il n'y a pas de charbon au Québec, il y a eu un certain délai, un certain retard, qu'on parle justement en termes de déplacement, d'établissement d'industrie. Bon, désormais, l'hydroélectricité ne peut plus jouer ce rôle-là. Or, au Québec, depuis 1944, il n'y a seulement qu'une compagnie qui appartient à l'État, Hydro-Québec, dans la région de Montréal, et l'ensemble du réseau hydroélectrique, et entre autres, l'ensemble du réseau de production hydroélectrique, appartiennent essentiellement à 11 compagnies privées. Donc, l'enjeu qui s'est fait, évidemment, l'image par excellence de la Révolution tranquille, et là, Stéphane Savard l'a très bien documenté dans des livres sur Hydro-Québec, c'est évidemment Hydro-Québec et la nationalisation de l'électricité à partir de 1962. c'est-à-dire la nationalisation des 11 compagnies d'électricité pour faire un monopole étatique pouvant assurer à la fois le développement hydroélectrique, donc c'est-à-dire la construction de barrages, ainsi de suite, d'ampleur, que les 11 compagnies ne pouvaient pas vraiment assurer sur l'ensemble du territoire québécois auparavant, et ensuite une distribution de coûts d'électricité au Québec, désormais, c'est partout le même, là. Donc, cette nationalisation de l'électricité, il était possible désormais de planifier l'économie et de la planifier de manière beaucoup plus efficace en tant que telle. Et ce qui était très différent auparavant. Auparavant, l'État n'intervenait que relativement peu. Les compagnies privées n'avaient pas de monopole. Donc, dans ces conditions-là, vous avez un développement qui est plutôt anarchique qui est présent ici. Et là, ce que l'État fait à partir de 1962, il assure un ordre qui permet d'assurer, par exemple, le développement économique. On va assurer, entre autres, avec la Société générale de financement, le financement des projets qui sont présents. On va assurer toute une série de... dans le domaine, par exemple, de Rexford, de la SOCIEM, la SOCIA, toutes ces compagnies d'État qui vont être créées pour le développement des ressources naturelles, le bois, les mines, même des initiatives pétrolières. C'est le rôle de l'État qui, non seulement sert à financer, mais sert aussi à ordonner l'ensemble.
Alors là, l'État s'occupe des ressources matérielles, mais il s'occupe également de la gestion, de la distribution des ressources symboliques, hein, avec l'éducation, un domaine qui était réservé en grande partie à l'Église. Alors, quelles sont les grandes lignes là, de ce renouveau-là?
Bien, il était réservé en grande partie, il faut nuancer. L'Église était là, mais en fait, le domaine de l'éducation depuis le 19e siècle, c'est un autre exemple dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Il n'y a pas d'un ordre assuré. L'Église catholique joue un rôle important pour les catholiques. Mais là, si on parle des protestants, vous parlez de toutes les églises protestantes, il y a eu tout le débat sur les écoles juives dans les années 1930. Donc, vous voyez, c'est un monde qui est complètement éclaté à ce moment-là. À partir de la Grande Dépression, on se rend compte que pour assurer le développement économique, ce n'est pas seulement les ressources matérielles, c'est aussi des êtres humains. Des êtres humains qui sont qualifiés, des êtres humains qui sont compétents, des êtres humains qui vont avoir accès à l'enseignement postsecondaire, qui vont se spécialiser dans des domaines particuliers. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement important ici. Donc, le développement des universités, par exemple, qu'on va voir à partir de la Deuxième Guerre mondiale, toute la question universitaire est particulièrement importante ici. La démocratisation de l'accès au savoir est cruciale là-dedans. Et aussi, pas seulement la démocratisation de l'accès au savoir, mais l'apprentissage d'un savoir de pointe. Et donc, il est donc important à ce moment-là d'assurer un ordre. Un ordre dans un monde qui, à ce moment-là, est éclaté. Un monde qui est non seulement éclaté, mais dont certaines institutions, comme l'Église catholique, par exemple, ne sont plus en mesure d'assurer la formation parce qu'elles connaissent un essoufflement particulièrement important du point de vue financier. Donc, ce qui se fait... Dès la fin des années 50, il y a une réflexion qui se met en place. Et à partir de 1961, l'État québécois va mandater Mgr Alphonse-Marie Parent pour faire la réforme de l'éducation. Et cette réforme de l'éducation-là, Mgr Parent, avec toute une série de commissaires, donc Guy Rocher, Jeanne Lapointe, Gérard Fillion et d'autres, vont faire le tour du monde. Ils vont vraiment aller un peu partout pour s'inspirer des modèles pour assurer une éducation de pointe. Par exemple, le modèle des polyvalentes, c'est en Suède qu'on va chercher. Le modèle des cégeps, c'est en Californie qu'on va chercher ça. Et il est donc important aussi de s'inspirer aussi d'un établissement d'un réseau postsecondaire, le réseau des cégeps qui va devenir particulièrement important pour toutes les régions. Le réseau des universités du Québec également. Les réseaux des universités du Québec, ça permet justement, vous êtes à Rimouski, vous êtes à Chicoutimi, vous êtes en Abitibi-Témiscamingue, vous êtes dans l'Est de Montréal, OK? Vous avez désormais l'accès à l'éducation postsecondaire là-dessus. Et ce sont des éléments qui vont venir importants, entre autres avec la création d'un ministère de l'Éducation en 1962 et avec la rationalisation des commissions scolaires. les années 50, il y a 1500 commissions scolaires qui existent. Donc, vous imaginez les disparités de financement qui sont présentes. Il faut donc les réduire. Puis, ces commissions scolaires-là, il n'y aura sans doute que 128 au moment de la Révolution tranquille. Donc, il va y avoir des regroupements de services. On va être capable d'offrir aux écoles primaires et secondaires la même qualité de formation. Bon, on l'espère, parce qu'il y a encore des disparités aujourd'hui. Mais une qualité de formation qui soit qui permette à des jeunes Québécois, peu importe où ils sont à travers le territoire québécois, d'avoir accès à l'éducation.
Et il y a la création d'un autre ministère en 1961 aussi, qui est assez significatif, là.
Oui, c'est le ministère des Affaires culturelles. C'est Georges-Émile Lapalme qui va être le premier titulaire de ce ministère-là. Il l'avait prévu, entre autres, en 1960, dans ce qui va devenir le programme du Parti libéral pour une politique en tant que telle. Il s'inspire du modèle français. Le modèle français, c'est celui d'Henri Malraux, c'est-à-dire que l'État intervient comme grand mécène dans le domaine de la culture. On considère que la culture est un moyen d'habiliter les citoyens, de créer une solidarité commune parmi les gens, d'avoir accès à un monde différent, à un monde qui soit un peu dégagé des tensions matérielles. Donc, il est donc important d'assurer ça, de financer dans le domaine des arts, dans le domaine des lettres, d'assurer, par exemple, des programmes d'accès, par exemple, des bibliothèques publiques. Le ministère des Affaires culturelles, par exemple, à l'époque de Denis Vaugeois, à l'époque du premier gouvernement du Parti québécois, c'est tout le réseau des bibliothèques publiques au Québec qui est présent, dans lequel, justement, les Québécois peuvent avoir accès aux livres là-dedans. Donc, vous voyez, le ministère des Affaires culturelles va donc jouer un rôle considérable également pour assurer aux citoyens un accès à la culture, donc à des moyens de s'épanouir puis de s'émanciper de manière sociale et culturelle.
Et là, après, on a bien décrit cette période du début des années 60. Les deux mandats de Jean Lesage, puis celui, puis les débuts du retour de l'Union nationale. Et là, après ça, vous parlez d'une autre période qui vient en 67 jusqu'en 1975, que vous qualifiez de prise de parole. Une période aussi caractérisée par un élargissement de l'écosystème politique. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bon, je parlais tantôt, le début de la Révolution tranquille, le premier mouvement, c'est du haut vers le bas. Des experts, des hommes politiques, surtout les hommes, parce qu'il n'y a seulement qu'une femme à l'époque qui est élue comme députée, Claire Kirkland Cassegrain. Donc, vers le bas, vers l'ensemble de la communauté. À partir de 1966, ce qu'on voit, c'est le mouvement du bas vers le haut. C'est-à-dire des citoyens qui disent, écoutez, nos problèmes politiques, ils sont importants, il faut les régler. Et là, c'est ce qui est particulièrement intéressant au Québec. Ce mouvement-là, le premier mouvement, c'est celui qui sort de la question linguistique. C'est la question linguistique qui vient du bas vers le haut. Parce qu'à l'origine, les responsables politiques ne sont pas intéressés par la question linguistique. Mais on voit qu'il peut y avoir des problèmes. La commission Laurando-Dunton dit, les Canadiens français sont en avant-dernier rang en termes de promotion sociale au Canada dans son rapport préliminaire en 1965. Mais ce n'est qu'à partir de 1967, avec les événements de Saint-Léonard, où on va voir justement des citoyens qui vont, de part et d'autre, vont dire que c'est important la question linguistique. D'une part, ça va être, par exemple, les parents italiens qui disent, nous sommes nus en Amérique du Nord, la langue en Amérique du Nord, c'est l'anglais. Donc, il est donc important pour moi que mon enfant ait accès à l'école anglaise, d'une part. Puis le français, c'est pas vraiment important en tant que tel, parce que ça ne m'assure pas le développement et la promotion sociale. D'autre part, vous avez des militants nationalistes qui disent, écoutez, là, il est temps de redonner aux Français le statut qu'il a besoin. Puis c'est important également que les francophones aient accès à la richesse collective, aient accès à la promotion sociale. Donc, c'est pour ça qu'il faut, entre autres, assurer un enseignement français. Donc, ces deux tendances vont s'affronter à ce moment-là. Et d'ailleurs, le premier gouvernement qui est pris avec cette question-là, c'est le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand. Il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il dit qu'il faut assurer de le libre choix d'un côté. Donc, la loi 63 va assurer le libre choix. Mais en même temps, ça provoque un mécontentement important. C'est des émeutes à Saint-Léonard qui éclatent à ce moment. Donc, vous avez, on va faire une commission d'enquête parce que c'est une façon de calmer les problèmes. Et la commission Gendron, en 1972, elle a déposé son rapport en disant, ben, il faut régler cette question-là. Le libre choix ne permet pas de régler le libre choix. Et c'est pour ça que le gouvernement de Robert Bourassa va faire la loi 22. La loi 22 consacre le français comme étant une langue officielle au Québec. Mais il y a un échappatoire, ce sont les tests linguistiques. Les tests linguistiques, on va, si les enfants sont capables de montrer leur connaissance de l'anglais, ils vont être capables par la suite, justement, d'entrer à l'école anglaise, ce qui provoque encore des crises. Et ce n'est qu'avec la Charte de la langue française en 1977 que le problème est réglé. Il n'y a plus de tests linguistiques. Le français est la langue commune au Québec, la langue publique, et c'est l'État communique avec ses citoyens en français. Donc, vous voyez, ici, ce qu'on voit, c'est que l'élargissement de l'écosystème politique, il y a de plus en plus de protagonistes qui sont présents, de gens qui interviennent dans le domaine politique. On le voit avec la question linguistique, on va le voir avec la question des femmes, par exemple, la question de l'avortement, de la contraception. On va le voir aussi avec la question des droits civils qui vont être présents, par exemple, pour lutter contre la discrimination, l'orientation sexuelle, la race, la couleur, ainsi de suite. On va le voir aussi avec la question des Autochtones. Okay? Donc, en 1975, les travaux de l'abbé James sont 16 parce que les Autochtones de l'abbé James, c'est écrit, obtiennent justement une injonction de la Cour pour arrêter les travaux en disant vous n'avez pas consulté, il est normal d'être consulté pour ces questions-là. Donc, vous voyez, c'est tout un élargissement de l'espace public et désormais, quand vous êtes à la tête d'un État, vous devez tenir compte de ces nouveaux protagonistes qui sont présents. Les femmes, les Autochtones, les jeunes, les groupes ethniques. Tous ces groupes décident, on voit au chapitre. Et désormais, on ne peut plus régler les problèmes politiques de la manière qu'on le faisait auparavant.
Et bon, à cette époque-là, une des prises de parole importantes, c'est aussi celle des étudiants.
Ah, bien sûr, parce que les étudiants rentrent en masse dans le monde universitaire. Donc, un groupe important, justement, d'individus qui ont accès désormais à l'éducation postsecondaire. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit au Québec, mais on voit aussi à travers le monde. Par exemple, mai 68, c'est cela. Donc, et aussi, ça se manifeste par toute une série de mobilisations pour un meilleur accès à l'éducation, mais aussi pour d'autres type de cause politique. La cause des femmes, on en parlait tout à l'heure, la cause de la décolonisation, la lutte des classes sociales, ce sont des éléments comme ça qui vont jouer pour beaucoup là-dedans. Ça va se manifester, entre autres, avec le mouvement artistique en tant que tel. On le voit avec les grandes manifestations collectives à partir de Expo 67, entre autres, les grands regroupements, les fêtes de la Saint-Jean qui vont être particulièrement importantes, dans lesquelles, justement, vous avez des jeunes qui sont là en nombre important et qui vont jouer là-dessus. Donc, vous voyez, c'est une toute nouvelle génération, surtout une génération qu'on parle des étudiants, on parle d'un groupe qui est particulièrement organisé, qui se rencontrent dans la salle de classe, qui ont des associations étudiantes, qui ont une réflexion politique qui est autonome en tant que telle, eh bien, ces gens-là veulent prendre voix au chapitre, vont venir des intervenants politiques, et très souvent, c'est par ces étudiants qui, autrefois étudiants, vont entrer par la suite à l'intérieur des partis politiques, vont participer, entre autres, à la vie politique en devenant des responsables. Bon, un exemple, ce serait celui-là de Bernard Landry, par exemple. Bernard Landry, qui faisait partie de l'association étudiante à l'Université de Montréal, donc au début des années 60, qui va s'intégrer à l'intérieur du Parti québécois, qui va tenter de devenir député en 70, qui va devenir député à l'époque du gouvernement de René Lévesque. Donc, vous voyez, c'est souvent le mouvement étudiant est un mouvement par lequel il est possible désormais aux responsables politiques de renouveler ses effectifs, parce que c'est là qu'on les forme en tant que père.
Et là, si on se déplace, disons, dans la deuxième moitié des années 70, pourquoi parler de cette période-là comme d'un moment de synthèse?
Eh bien, on voit ces deux mouvements, comme je vous disais tantôt, le mouvement du haut vers le bas, okay, qui est un mouvement historique des élites vers l'ensemble de la population, les citoyens, et celui du bas vers le haut, justement, de l'ensemble des citoyens vers les élites. Ces deux mouvements-là vont se rencontrer à un moment donné. Et là où ils se rencontrent, c'est à partir de 1975, mais surtout à l'époque du premier gouvernement de René Lévesque. Donc, on voit un exemple que je peux vous donner qui, selon moi, l'événement emblématique de la Révolution tranquille, c'est la question des « boat people ». La question des « boat people », à partir de la fin de la guerre du Vietnam et du génocide au Cambodge, eh bien, on parle de 75-76, il y a une crise de réfugiés qui est massive à travers le monde, qui, en Asie du Sud-Est. On parle de millions de personnes qui sont touchées à ce moment-là, des déplacements de population, ainsi de suite. Et l'Asie du Sud-Est, les Québécois savent où ça se trouve. Pourquoi? Parce qu'on a suivi la guerre du Vietnam à la télévision. Les moyens de télécommunication ont joué pour beaucoup là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se produit à l'époque du premier gouvernement de Lévesque? Eh bien, un ministre particulièrement important, c'est Jacques Couture. Jacques Couture, c'est un père jésuite qui s'implique dans le domaine politique. Lévesque lui conseille, à l'origine, c'est le ministère du Travail. Il augmente coup sur coup deux fois le salaire minimum. Donc, Lévesque est un peu pris avec un ministre qui est assez revendicateur. Il le place à l'immigration. Et à l'immigration, il devient un des ministres les plus efficaces de la Révolution tranquille. Il va, entre autres, négocier avec Ottawa une politique, justement, dans laquelle le Québec a désormais un contrôle constitutionnel, justement, sur le mouvement migratoire. Et comme c'est un jésuite, il est particulièrement marqué par la crise des réfugiés en Asie Sud-Est. Donc, à la fois, vous avez un mouvement du bas, les citoyens qui sont heurtés par ce qu'ils voient. Il faut qu'ils vont faire quelque chose. Ils font pression sur le personnel politique. Et aussi, du bas vers le haut, comme je disais, mais du haut vers le bas, parce que vous avez quelqu'un comme Couture, qui est ministre à ce moment-là, qui dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, ce qu'on va voir à ce moment, c'est le programme de parrainage des immigrants. Et là, on parle d'à peu près 7800 personnes qui vont être parrainées à travers le Québec. Il y a à peu près 280 groupes communautaires, paroisses, syndicats, individus qui vont parrainer des familles de réfugiés vietnamiens, cambodgiens, laotiens au Québec en 1969 et 80. C'est un mouvement de générosité collective qui est sans doute le principal mouvement de générosité collective au 20e siècle. Et ce mouvement-là est une synthèse entre les deux.
Et, bon, vous parliez de la fin de la Révolution tranquille en 83, là, avec un peu partout en Occident cette émergence, si on veut, du néolibéralisme, mais il y a quand même quelques fissures là, qui annoncent la fin d'une époque.
Bien, ces fissures apparaissent d'une part au point de vue économique. C'est là, on le voit au moment de la crise du pétrole, les dettes budgétaires augmentent de manière importante. Donc, l'État a beaucoup de difficultés à pouvoir rembourser sa dette. La richesse n'est pas nécessairement au rendez-vous. Donc, il faut c'est une inquiétude qui est particulièrement grande là-dessus. Point de vue politique, par exemple, à l'époque du gouvernement Lévesque, c'est l'échec du référendum sur la souveraineté association. Donc, le gouvernement Québec perd l'avantage, c'est désormais le gouvernement Trudeau qui a l'avantage là-dessus. Et donc, à ce moment-là, le projet politique va être défini, entre autres, par l'État fédéral. Donc, ces deux éléments-là vont concourir en grande partie pour fissurer le projet de la Révolution tranquille. Et là, à partir justement des Reaganomics, à partir des années 1980, le régime d'austérité néolibérale joue en ici, eh bien, là, c'est à ce moment-là que ça se termine, la Révolution tranquille. On le voit avec la loi 111, on le voit avec l'austérité qui désormais est présente dans la société.
Donc, malgré ces écueils, pour terminer en quelques mots, là, il y a quand même... Quels seraient pour vous là, les principaux acquis de la Révolution tranquille qui vont demeurer jusqu'à aujourd'hui?
Bien, le principal acquis de la Révolution tranquille, pour moi, c'est... cette image très présente, cette représentation très présente de l'émancipation. La Révolution tranquille est une époque dans laquelle on croyait être capable de s'émanciper des contraintes économiques, sociales, politiques, culturelles et autres. Eh bien, cet idéal demain à présent dans la société québécoise. C'est pour ça que la Révolution tranquille est une période dans laquelle tout le monde se reconnaît maintenant. Et on dit que sommes tous des fils et des filles de la Révolution tranquille parce que, justement, cette période-là est une période d'émancipation. Bien sûr, on va être critique de certains aspects en tant que tel, mais la volonté d'émanciper demeure le principal patrimoine qui est issu de la Révolution tranquille.
Ben, merci beaucoup, Martin Paquette. C'était très intéressant.
Ben, merci beaucoup également de m'avoir invité et bonne lecture pour ceux qui nous liront.
Oui, ouais, ben évidemment, le livre est disponible chez tout bon libraire. Évidemment, on évite les plateformes américaines sur Internet. Alors, on se laisse avec une chanson assez emblématique de ce climat d'ébullition politique des années 70 avec « Cochez oui, cochez non » de Paul Piché. Bonne fin de soirée.
Avez-vous l'intention d'être vieux longtemps? Saurez-vous comment vous occuper? Savez-vous combien ça va nous coûter? Je sais pas, mais dernièrement, j'enterrai mes parents. J'espère vivre aussi vieux, ce sera coûteux. J'aurais aimé vous conter l'histoire des années folles, des années noires. L'amour, la haine qu'on a connu, de tous les proches que j'ai perdus. Ça vous fait jouer, vous savez, quand les gens meurent, où ils sont nés. Et d'un crayon, vous faites une croix, leur vie vous passe entre les doigts. Cochez oui, cochez non. Cochez non, cochez oui, cochez non.
rap, ça veut dire rythme et poésie.
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix. C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne.